Tous les jours, les experts se donnent rendez-vous dans l'Afterwork.
Et on est de retour dans l'Afterwork. On est mercredi et mercredi dit 5 minutes d'histoire. Salut, ça va ?
Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien et toi ?
Ça va. Alors du coup, aujourd'hui Olivier, nous allons aborder et même plonger dans le mystère des sociétés complotistes et conspirationnistes. J'aime bien ça.
Voilà, tout à fait Cyrielle. Alors aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet. Illuminati, francs-maçons et quelques-unes de ces sociétés, secrètes ou discrètes, existantes ou non, qui alimentent les fantasmes. Alors il faut juste savoir avant que leur rayonnement dépasse la simple existence sur les réseaux sociaux, les blogs et autres sources d'informations qui sont, avouons-le, peu vérifiées.
Est-ce que ça dépasse réellement ce cadre pour arriver dans nos vies ?
Ah oui, tout à fait. Et avec une telle force et une telle vigueur que Florence Robin, qui est notre nouvelle rectrice de l'Académie Nancy-Metz, évoquait une nécessaire discussion, un nécessaire temps de réflexion en classe. En avril 2016, lorsqu'elle était directrice générale de l'enseignement scolaire, ou bien on peut dire numéro 2 de l'éducation nationale, elle disait, et je reprends ses mots, « Les discours complotistes et conspirationnistes, s'ils ne sont pas nouveaux, ont pris une ampleur préoccupante avec le développement d'Internet. L'école, comme lieu de transmission des savoirs, est directement visée par ces discours qui nient la raison et la recherche de vérité. »
Est-ce que tu peux nous donner des exemples de cette diffusion massive ?
Oui, alors si on prend le phénomène récent des Illuminati, censé régner depuis les USA dans l'ombre, on trouve actuellement des chansons, des livres, des romans, des articles de presse, de revues grand public, voire même des interventions de spécialistes, comme en février 2016 au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Alors, je peux vous donner quelques noms là-dessus. C'est évidemment le travail d'Éric Giacometti et Jacques Ravenne, où nous avons un commissaire franc-maçon qui enquête sur les Illuminati. Alors là, c'est la totale. Ou bien la chanson Illuminati de Madonna, pardon, voire encore Dan Brown pour ceux de notre génération, etc., etc.
Da Vinci Code.
Notamment, ou bien Angers Démons.
Angers Démons aussi. Je ne l'ai pas lu encore.
Ah, ben alors là, les Illuminati sont dedans, il faut le lire.
Donc au final, ils sont bien présents, mais depuis combien de temps ?
Eh bien depuis toujours, Cyrielle. Depuis toujours, ce n'est qu'un complot de plus qui remplace le fameux concept et complot judéo-maçonnique de la Seconde Guerre mondiale que certains parmi nous connaissent bien d'un point de vue historique. On en rirait bien aujourd'hui si ça n'avait pas conduit à des réelles persécutions. Alors ça a conduit à une grande exposition pendant la Seconde Guerre mondiale avec le film de propagande Force occulte. Ça a conduit au sac et à la destruction des loges maçonniques dans toute la France. La persécution de tous les frères affiliés, alors quand je dis frères, c'est derrière le mot frère se cache un franc-maçon. Et la diffusion des noms de ces frères dans tous les journaux. Ou bien encore l'envoi en camp de concentration, la perte d'emploi, etc. Il faut savoir aussi que ces fameux maçons seront accusés, bien avant, ils seront accusés d'avoir fait voter la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. À croire que tous les députés de l'hémicycle en étaient, dans cette France où, ben, il faut quand même se l'avouer, la religion était encore plus visible qu'aujourd'hui. Mais, et c'est ça qui m'étonne toujours autant, en tant que prof d'histoire, c'est qu'on croit toujours que ça concerne que les pauvres d'esprit, ou bien les personnes un peu naïves, et ben pas du tout.
Alors du coup, t'as une petite anecdote à nous confier, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, une anecdote authentique, je vous le certifie. C'est il y a un an, je suis allé chez un professionnel de santé, chez un ostéopathe, pour soigner des maux de dos. Alors, moi je suis d'un naturel causant, j'avoue, donc au fil de la discussion, j'explique à cet ostéopathe que je suis enseignant d'histoire, et puis une chose en entraînant l'autre, nous discutons de quelques passages, de quelques moments forts de l'histoire. Eh bien, figurez-vous, j'espère que vous me croirez, mais au bout de 10 minutes, j'ai assisté à la résurrection du complot judéo-maçonnique. Le praticien en question m'a expliqué que les francs-maçons étaient vraiment responsables de tous les maux, de tous les désordres de notre société, des difficultés que nous vivons, et ce, depuis 1789. Bon, j'avoue que je devais avoir l'air très dubitatif, même s'il voyait que mon dos, parce qu'il s'est senti obligé de rajouter « Mais si, je vous assure, je l'ai vu dans une émission, et j'irai même plus loin, il y a un aspect diabolique. »
tu l'as dit, un aspect diabolique. Alors, il faudra que tu m'en parles un petit peu, là.
Voilà, alors, l'aspect diabolique, pour peu qu'on en ait entendu parler à la télévision, sur YouTube, ou bien dans des journaux dont le sérieux n'est pas forcément la qualité première, ben, la franc-maçonnerie et toutes ces sociétés, on y raccroche tous nos maux, toutes les perversions, les faits historiques qui nous laissent un peu incertains, etc., etc. Si on prend quelques exemples connus, la mort de la princesse Diana, ou bien l'assassinat de Kennedy, ou si on remonte dans l'histoire la mort de Louis XVI, ou bien encore, je vous l'atteste, le sosie du pape Paul VI, un sosie qui était chargé de détruire l'Église, selon certains, ou bien encore le décès subit du pape Jean-Paul Ier, qui aurait régné 33 jours, comme les 33 ans du Christ, qui a été assassiné par des cardinaux francs-maçons, ou bien, encore plus proche encore, la mort de Pierre Bérégovoy, l'ancien Premier ministre, en 1993. Dans chaque cas, des zones d'ombre subsistent. Et c'est bien normal, j'ai envie de dire. Qui sommes-nous pour faire une reconstitution tellement précise des faits que nous entrons dans la peau de la personne, qu'on lui prête des idées, des intentions, des pressions, etc., etc. C'est impossible. Et le pire dans tout ça, je dois bien l'avouer, au niveau historique, c'est ce qu'on appelle le survivantisme. Alors, j'explique en deux mots, hein, c'est cette idée qui consiste à dire qu'un personnage historique n'est pas mort, mais qu'il est bien là, qu'il est prêt à réapparaître.
Michael Jackson,
Elvis n'est pas mort, n'est-ce pas? Mais plus sérieusement, c'est le cas du pape Paul VI. Paul VI, je le rappelle, était le pape qui est mort en 1978, ou bien les descendants de Louis XVII, hein, ou ceux qui se prétendent tels. Ou bien encore les descendants d'Anastasia, vous savez, hein, cette famille du tsar russe qui est morte lors de la révolution de 1917. Et ben, ils devaient donc reprendre le pouvoir, tous ces gens-là. Nous sommes donc vraiment dans une conception purement politique. Ben, du coup, on se met à spéculer. Hein. On connaît tous des articles, des couvertures de magazines qui sont un petit peu en dehors de la vérité. Bon, ben, il faut bien vendre, hein, vous comprenez. Et c'est ça le plus simple. C'est ça le cas de la conspiration, c'est ça le problème. Tout est signe d'un projet d'assassinat ourdi dans l'ombre. Pour Diana, on avait même parlé d'un sabotage de la voiture. Alors, allez-y pour contredire une telle rumeur. Hein. Alors ça, c'est le stade premier. L'existence d'une cinquième colonne, tapis dans l'ombre. Le second stade, c'est l'origine de leur prétendu pouvoir.
Alors, des pouvoirs, est-ce que tu abuses pas un petit peu, là?
Ah non, je vous assure, hein, vraiment, on leur attribue une source de pouvoir tirée de forces obscures, mystérieuses, pour ne pas dire surnaturelles. Alors, pour nos aînés, ils verront tout de suite de quoi je parle. Hein, la génération actuelle qui s'intéresse aux Illuminati attribue un rôle très actif de cette prétendue société dans l'assassinat de Kennedy à Dallas. Alors, quelles en sont les preuves? J'ai envie de dire, aucune.
Et pourtant, on peut réellement et sérieusement s'informer, tu me diras.
Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Si on prend l'exemple de la franc-maçonnerie française, depuis 1717, qui est la date de fondation officielle et reconnue, hein, dans la taverne Loi et le Grill, nous sommes en Angleterre, jusqu'à la guerre, où certains frères vont se diviser entre d'un côté occupation et de l'autre résistance, jusqu'au combat actuel qu'elle porte ou qu'elle a porté. Bah, si vous voulez vous intéresser à ça, vous consultez sur Amazon ou sur tout autre site marchand ou bien directement en librairie et vous verrez que de nombreux spécialistes ont écrit là-dessus. Alors on peut citer Borpère, qui est un professeur d'université, ou bien Roger Dachaise, Kellerman, Bauer, etc., etc.
Et du coup, sur quel support portent toutes ces théories dont tu nous as parlé?
Bah, sur un support très fort, Cyrielle. C'est en fait une sorte de mélange entre d'un côté imaginaire, de l'autre un aspect un peu religieux, et puis enfin, une sorte de reliquat d'histoire. Vous savez, j'ai eu une discussion une fois avec un collègue enseignant qui me disait qu'on n'a vraiment rien inventé depuis le Moyen-Âge. Parce que selon lui, en fait, au Moyen-Âge, chaque cataclysme, chaque catastrophe, comme la peste par exemple de 1348, qui est connue sous le nom de Grande Peste, bah, tout ça a été vécu comme une punition divine. Donc voulu ou tout au moins permis par le même Dieu. Alors si vous transposez ça au XXe puis au XXIe siècle, bah, vous aurez exactement le même phénomène, mais côté diable cette fois-ci.
Alors avant de faire une petite pause, j'ai une dernière petite question pour toi. Qui propage ces théories?
Eh bien excellente question, Cyrielle. Il y a effectivement un début à toute chose. Alors pour les francs-maçons, ça sera l'abbé Baruel, un prêtre qui a vécu au XVIIIe siècle au moment de la Révolution française. Pour faire simple, soyons concis, On peut résumer ainsi sa théorie, et j'insiste vraiment sur le mot « théorie ». Il explique que la Révolution française, la mort de Louis XVI, est due à la volonté de ces francs-maçons, qui auront intrigué pendant des dizaines d'années dans l'ombre. Louis XVI sera donc considéré non plus comme un dommage de l'histoire, mais comme un martyr, hein, qui est le martyr d'un complot ourdi dans l'ombre. Je rappelle à ce sujet que tout roi de France est l'élu de Dieu, on disait le lieutenant à l'époque. Donc le raccourci est vite fait, ils ont voulu tuer Dieu. Aujourd'hui, bon, c'est un peu à nuancer, vu que le nombre de croyants pratiquants baisse, cette théorie a tendance à être un peu oubliée et bat un peu de l'aile, on va pas se mentir.
On fait une petite pause musicale, on s'écoute Madonna et son titre Illuminati que tu nous as parlé, on se retrouve juste après. It's not Jay-Z and Beyonce, it's not Nicki or Lil Wayne, it's not Oprah and Obama, the Pope, Ariana, Queen, Elizabeth or Kanye, it's not pentagrams or witchcraft, it's not triangles or stacks of cash, black magic or Gaga, Gucci or Prada, riding on the golden cat.
Behind the curtain of the new world order, it's not platinum and curved corners. It's not Isis or the Phoenix, pyramids of Egypt don't make it into something sorted. It's not Steve Jobs or Bill Gates, it's not the Google of United States. It's not Bieber or LeBron, Clinton or Vaughn, or anyone you love to hate. It's like
everybody in this body shining like Illuminati. It's like everybody in this body shining like Illuminati. It's like everybody in this body shining like Illuminati.
Posez toutes vos questions aux experts de l'Afterwork sur la page Facebook RCM Radio-Asso.
Et on est de retour dans l'Afterwork mercredi, 5 minutes d'histoire avec Olivier.
Oui, rebonjour à tous. Nous étions en train d'évoquer la question des Illuminati, des francs-maçons, du survivantisme, hein, lorsque certains papes ont continué à exister et vivre au-delà de leur mort, etc., etc.
Alors du coup, tu nous avais expliqué qui, à l'époque, lançait les théories, et voilà, c'était des faits anciens. Maintenant, aujourd'hui, en 2017, qui lance ces théories ?
Eh bien, des gens comme toi et moi, grâce ou à cause des réseaux sociaux. C'est ça le plus fort. C'est que la meilleure arme de l'adepte des théories du complot, eh ben, c'est Photoshop, tout simplement. Vous savez, une phrase, une photo sortie de leur contexte, eh ben, on leur fait dire tout et n'importe quoi. Alors, on leur fait dire ce qu'on veut. Eh bien, je vous raconte à ce sujet une anecdote. Un de mes profs de fac m'avait raconté que lorsqu'il était professeur en lycée général, il y a quelques années quand même déjà, il avait traité le sujet de la franc-maçonnerie et de la Révolution française à la demande de ses élèves. Eh bien, figurez-vous, qu'étonné du fait qu'il en ait parlé aussi facilement, eh bien, il a été taxé par ses élèves d'être un frère, d'être un franc-maçon. Alors, allez-y pour prétendre le contraire ensuite, hein, c'est le fameux retournement de situation. Plus tu prétends ne pas en être, plus cela te rend mystérieux, etc., etc. Mais le problème qui se pose aussi, c'est que s'il avait refusé de traiter le sujet, il aurait reçu la même accusation. Du coup, j'ai envie de vous faire un scoop, hein, une confidence. Je te fais une confidence, Cyrielle. Je ne suis pas franc-maçon, mais me croirez-vous ?
C'est une question. Vous en pensez quoi, chers auditeurs ? Il en sait pas mal quand même, j'aimerais dire. Les preuves, les faits de tel complot, elles sont où au final ?
Eh ben nulle part, Cyrielle. C'est ici la force de ces rumeurs. Et en fait, plus vous essayez de donner des arguments prouvant qu'il n'y a pas de complot, hein, plus vous essayez de convaincre une personne, plus cette personne qui est adepte de ces théories vous taxe de mensonges, de jouer le jeu des Illuminati, des francs-maçons, etc., etc. Alors s'il est vrai que les Illuminati ont existé en Bavière, hein, cette région allemande au XVIIIe siècle, leur existence, elle ne se prolonge pas après. Hein. Mais ôter cette joie, de la rumeur à quelqu'un, bah, vous le perdez, c'est fini. Hein. Alors là, vous lui ôtez, je ne vais pas dire sa raison de vivre, mais quasiment. Hein.
Quelle solution maintenant pour démêler le vrai du faux de tout ce qu'on peut voir maintenant ?
Eh ben, la solution, elle est très simple, elle va peut-être en décevoir certains, mais c'est la transparence en fait, l'invitation à venir découvrir. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rentrer en maçonnerie ou chez les Illuminati ou autre, hein. Ne nous trompons pas. Voilà. Mais si on reprend le cas des francs-maçons, en France, un frère maçon ne s'affiche pas forcément en tant que tel, même si on connaît les adresses des sièges sociaux. Eh ben, allez rue Cadet à Paris ou bien rue de Puteaux, eh ben, vous tombez dessus. Ou bien plus proche de chez nous, vous allez aux Imaginales, le festival du livre d'Épinal qui se tient chaque année fin mai. Et j'imagine, Cyrielle, qu'on en parlera à ce moment-là, des Imaginales.
Ah bah oui, tout voilà. À fait.
Eh bien, vous pouvez visiter le temple maçonnique à ce moment-là, fin mai. Vous pouvez discuter avec des frères, etc., etc. Et j'ai l'occasion de m'y rendre de temps en temps, chaque année, au cours des Imaginales. Lorsque cela parle d'histoire ou de littérature, eh bien, je peux vous assurer honnêtement que c'est enrichissant.
Là, tu m'apprends quelque chose.
Ah oui,
on va aller à Épinal faire une petite enquête.
Voilà, tout à fait. Bon, alors, je vous rassure, hein, si on va faire une enquête, on ne m'a jamais fait signer un quelconque document pour m'y rendre, ou bien quelque chose d'autre, on ne m'a jamais fait sacrifier à je ne sais quel élément, etc., etc. Non, non. Au contraire, chaque fois que je m'y suis penché sur cette question entre histoire et maçonnerie, bah, je dois vraiment reconnaître que j'ai reçu globalement un accueil favorable. Après, bon, on va pas se mentir, certains frères sont plus frileux que d'autres, mais c'est un peu toute proportion gardée lorsque vous voulez pas dire à votre collègue de travail que vous allez à la messe le dimanche. Hein, cela ne le regarde pas forcément, donc vous n'en faites pas étalage. Alors, si on voulait rire, en revanche, de ces clichés, hein, je sens, lorsqu'on a préparé cette émission, que tu étais très intrigué par cette question des clichés, des sacrifices, des francs-maçons, etc., etc.
Ça m'intrigue, mais je pense que ça m'effraie plus que ça m'intrigue.
Voilà. Bah, alors, je vous conseillerais à la fin de cette émission un ouvrage de Jacques Ravenne. Voilà. Bah, par contre, élargissons un peu notre point de vue. Si vous allez de l'autre côté de la Manche, ou voire de l'autre côté de l'Atlantique, c'est encore plus frappant, hein, ce phénomène de la franc-maçonnerie. Les loges maçonniques ont pignon sur rue, hein, dans ces contrées, avec des panneaux lumineux en pleine rue, etc., etc. Alors pour des gens, je dois avouer, qui sont accusés par la rumeur de fomenter un complot pour gouverner le monde, on ne sait pas très bien d'ailleurs quel complot, hein, eh bien, je dois avouer qu'ils sont très peu discrets. Hein. Si je prends l'exemple de la franc-maçonnerie anglaise, eh bien, c'est un membre de la famille royale anglaise, le duc de Kent, qui est grand maître. Alors j'ai envie de dire, soit il est fou, soit la franc-maçonnerie, elle sert pas à renverser la royauté comme l'abbé Baruel avait pu le prétendre. Hein. Alors vous pouvez y aller, vous cherchez dans les placards, sous les tapis, hein, que ce soit à Épinal ou en Angleterre. Honnêtement, vous trouverez aucune trace de sacrifice, de messe noire ou autre. Hein.
Et d'ailleurs, c'est le moment tant rêvé où tu fais ton coup de gueule, là.
Ah oui, alors, voilà, hein, j'ai tenu à faire mon coup de gueule. Hein, ça, c'est le coup de gueule du prof d'histoire géo. Je le répète chaque année à mes élèves de lycée. Je dois être très clair là-dessus. On accuse toujours de prétendues personnes, d'agir dans l'ombre, de gouverner, etc. etc. Alors, on en oublie presque hein, que le suffrage universel, c'est pas une utopie. Que des gens se sont battus pour, notamment des francs-maçons. Donc, soyez gentils. La prochaine élection, on n'oublie pas son devoir de citoyen si on veut que la société avance. Alors, fin de la parenthèse là-dessus, et finissons sur le sujet des francs-maçons. Si on reprend le concept du complot judéo-maçonnique, hein, qui a aussi le mot judéo dedans, hein, donc qui renvoie au judaïsme, bah c'est exactement la même chose. Si vous voulez visiter une synagogue ou autre, vous apercevrez qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a aucun souci.
Tu nous as donné pas mal de bouquins qu'on pourrait lire. Tu peux nous faire un petit topo de ce qu'on pourrait lire sur le sujet ?
Voilà, allez, c'est parti pour notre rubrique Conseil littérature. Pour les prochaines émissions, je pense même qu'on mettra un jingle version, je ne sais pas moi, téléachat ou autre.
En fait, on remasterise, c'est pas 5 minutes d'histoire, c'est 5 minutes de lettres.
Voilà, allez, plus sérieusement, donc tout d'abord un ouvrage qui à mon sens est succulent, qui s'intitule Les Tribulations de Jean Acacio, donc c'est de Jacques Ravenne. Où toutes les théories fumeuses sur la franc-maçonnerie se voient décortiquées avec un humour qui est vraiment caustique, c'est extrêmement plaisant, c'est un livre de poche, je vous le recommande. Un deuxième ouvrage peut-être sur la fondation de la franc-maçonnerie, ça s'appelle Les Mystères de Chanel Rowe, R-O-W. Alors c'est de Boer et Dachaise qui sont deux spécialistes, hein, pour rappel, Monsieur Boer est également conseiller du ministère de l'Intérieur en matière de terrorisme, donc une sommité j'ai envie de dire. Un livre passionnant qui est écrit en plus sous la forme de roman historique, donc ça permet d'éviter... Le livre de 300 pages, un peu version manuel d'histoire, illisible, qui sert à caler le livre, à caler le lit, parce qu'on a du mal à le lire. Ou bien encore, ben, tout simplement, un ouvrage très sympathique qui s'appelle La franc-maçonnerie pour les nuls de Philippe Benamou.
Ah, je vais prendre celui-là.
Voilà, alors lui, il est très sympathique. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs Philippe Benamou aux Imaginales. Il n'était pas du tout caché derrière un pilier ou une colonne dans un temple maçonnique. Il était sous ce qu'on appelle la bulle du temple des Imaginales, hein, qui est la grande tente. Et il est très, très sympathique. Donc. Je vous recommande La franc-maçonnerie pour les nuls. Et puis enfin, un dernier livre peut-être, sur le lien supposé, et j'insiste sur le lien supposé entre maçonnerie et Illuminati, c'est l'excellent polar d'Éric Giacometti et Jacques Ravenne qui est intitulé Le règne des Illuminati. Alors, je précise, c'est une œuvre de fiction, hein, donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit, mais avec un cadre historique extrêmement bien documenté.
Et puis, pour terminer, tu as une dernière anecdote pour nous faire méditer jusqu'à la semaine prochaine.
Voilà, alors une dernière anecdote, et puis ensuite, nous allons vous annoncer ce qui va être traité la semaine prochaine. Donc, un dernier exemple de théorie hein, fumeuse avant de nous quitter. Une théorie en vogue qui consiste à expliquer qu'il n'y a jamais eu d'homme sur la Lune. Alors, je vous donne les principaux arguments. À vous d'en faire votre jugement. Donc, les principaux arguments, c'est en premier lieu le drapeau sur les photos. Il flotte, alors qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Deuxième argument, qui a photographié, qui a filmé les astronautes, vu qu'il n'y avait pas d'autres passagers. Et enfin, troisième argument, alors l'argument imparable, pourquoi est-ce qu'on n'y retourne pas ?
Alors là, non, vraiment, je ne sais que dire. Voilà. Est-ce que tu pourrais... Tu nous en dis un petit peu ou pas alors ?
Rien du tout.
Mais je vais pas pour attendre jusqu'à la semaine prochaine que tu me le dises là.
Voilà, alors plus sérieusement, si cette question vous intéresse, il y a un très bon documentaire qui a été réalisé, je vous donnerai les coordonnées la semaine prochaine, un documentaire qui explique comment ça s'est passé, mais il y a une histoire de caméra qui était fixée sur un rail depuis le satellite. Enfin, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine.
Bah, l'histoire du drapeau, par contre, ça me choque un petit peu. Parce que c'est vrai.
Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai.
C'est en toute logique. Du coup, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va parler ?
Alors, la semaine prochaine, on va revenir un petit peu dans un anniversaire historique. Figurez-vous, mais ça n'a pas fait énormément de bruit à mon sens, figurez-vous qu'on va fêter les 500 ans de la réforme protestante. Nous allons donc évoquer la question de Luther, Zwingli et quelques autres grands réformateurs dont certains ont fini sur le bûcher. Pourquoi ? Comment ? Réponse la semaine prochaine.
À la semaine prochaine pour 5 minutes d'histoire.
À la semaine prochaine.
Retrouvez vos experts sur le site internet de la radio.